On était en train de manger des spaghettis. Je les avalais en faisant du bruit et ça l'énervait. Quand elle a fait la même chose, j'ai trouvé ça rigolo. Je n'étais qu'un gamin. Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir tout à coup senti une douleur très vive. J'ai tourné la tête et j'ai vu que j'avais une fourchette dans le bras. Je ne me souviens pas d'être allé à l'hôpital. Simplement d'être à table, de prendre un coup de fourchette et de voir mon bras en sang, avec une fourchette plantée dedans. J'ai un tatouage pour cacher la cicatrice. C'est écrit « Je te pardonne » et Mary Bernice Rawls en dessous, enfin, les initiales de ma mère.
Mary Rawls sobbed in court. Alice Jenkins showed little emotion as they heard the long list of charges they were about to admit to.
I have had cold-blooded murderers stand in front of me. Rapists, child abusers, burglars, drug traffickers. I would have to say that the two of you are perhaps the coldest, most unfeeling, least empathetic criminals I have ever seen.
On ne sait pas ce qui se passe dans la vie privée des gens. On ne sait pas. Il y a des monstres dans certaines familles et on n'en sait rien. Ça fait peur. Ça peut être le voisin, la personne d'en face, ou quelqu'un de sa propre famille. Et parfois, on ne le sait même pas. Ma mère s'appelle Mary Rawls. Entre l'âge de 15 et 21 ans, elle a eu 6 enfants. Mon souvenir le plus lointain remonte à 1997. J'habitais avec ma mère, mon frère Tyler, ma sœur Marissa, mes frères Darrell et Danny, et Caleb, qui venait de naître. C'était une super maman. J'ai des photos de nous tous. Quand elle nous emmenait au fast-food, quand on était encore petits. Avant Alice, ma mère nous traitait plutôt bien. Ma mère a rencontré Alice dans une boîte gay, à Akron, dans l'Ohio. Très vite, on a emménagé dans une nouvelle maison, avec Alice. Mes frères et sœurs Darrell, Danny et Marissa sont allés vivre avec leur père. Et je suis resté avec Alice, ma mère Marie, mon frère aîné Tyler et le petit dernier Caleb. Pendant quelque temps, tout se passait à peu près bien. Mais Alice se considérait comme le petit ami, l'homme de la maison. C'est la dernière maison dans laquelle on a habité. J'avais 14 ans la dernière fois que je l'ai vue. Ça me donne des frissons de la revoir. Pendant des années, j'ai eu l'impression que j'y resterais enfermé pour toujours, avec Alice et Marie. C'est comme si... Je sais pas. Ça me rend nerveux, cette photo. Parce que cette maison me rappelle de mauvais souvenirs. Personne ne savait ce qui se passait. Au début, Alice nous traitait bien. Elle était gentille. Mais au fil du temps, elle est devenue jalouse de l'attention que Marie nous accordait. Elle a commencé à nous séparer de notre mère et nous attacher au lit quand elle partait au travail. Tyler et moi dormions dans la même chambre au début. Des lits jumeaux, côte à côte. Elle nous ligotait les poignets et les chevilles au montant du lit, allongés sur le dos, pour qu'on ne puisse pas nous retourner, ni bouger. Alice n'était jamais agressive. Elle était très silencieuse et sévère. Elle voulait simplement en finir avec ce qu'elle faisait. Marie s'occupait de Caleb presque toute la journée, parce que c'était encore un bébé. Je ne la voyais pas beaucoup.
Stay here and be quiet until I get back.
On restait dans notre chambre, attachés au lit, Tyler et moi, côte à côte. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Ça me terrifie davantage aujourd'hui que lorsque j'étais petit, parce que je ne comprenais pas. J'étais très jeune et ça me paraissait normal. Au bout d'un moment, on a compris comment se détacher. Alors on descendait rejoindre notre mère et Caleb au rez-de-chaussée. Alice était furieuse quand elle rentrait et nous trouvait en bas avec Marie parce qu'on s'était échappé. Mais c'était un peu comme un jeu. On n'était même pas punis. Elle nous envoyait nous coucher et la même chose se reproduisait. Pour nous, c'était comme une finalité en soi, d'être ligotés et de s'échapper encore et encore. On aurait dit qu'elle essayait de nous séparer, Marie, Tyler et moi, de rompre nos liens. Alice a creusé un fossé entre Marie et ses enfants. Quand on s'échappait dans la journée, elle rentrait à la maison et nous trouvait sur le canapé, avec Marie. On voulait passer du temps avec notre mère, mais un jour, elle nous a enfermés dans des chambres séparées. Elle reliait les deux poignets avec une corde pour qu'on ne puisse pas sortir ni ouvrir la porte. Elle était très calme et réservée. Pour elle, c'était comme une tâche à accomplir. Comme si on était des animaux dont elle devait s'occuper. Quand elle bloquait les portes, ce n'était plus tellement un jeu, mais plutôt une punition. On était emprisonnés. On n'avait rien à faire dans la chambre. On restait là entre 8h du matin et 4h de l'après-midi, à attendre qu'Alice rentre et nous donne à manger. Il n'y a pas de mots pour décrire le vide qu'on ressent quand on est tout seul. Enfermé dans une pièce pendant des heures, sans aucune notion du temps qui passe. Et qu'on reste là, tout seul. Il n'y a personne à qui parler. On ressasse les mêmes pensées en boucle dans sa tête. Tyler et moi frappions sur le mur pour faire de la musique. C'est aussi devenu un moyen de communiquer entre nous, de taper sur le mur. Même après le dîner, on était reconduits dans notre chambre et la porte était bloquée. Et on restait tout seul la nuit dans nos chambres respectives. Marie n'a jamais rien dit une fois qu'on s'est retrouvés séparés. Parfois, elle n'était même pas là pendant le dîner. Il n'y avait que nous. On mangeait très vite et on remontait. Je pense vraiment qu'Alice faisait ça pour s'accaparer l'attention de Marie. Le comportement d'Alice a empiré. Elle a commencé à nous priver de nourriture, à nous affamer. Jusque-là, Alice nous laissait sortir de la chambre, Tyler et moi. La plupart du temps, elle nous donnait un peu de céréales pour le petit déjeuner. Et pour le dîner, c'était presque toujours des macaronis au fromage ou des hot dogs. Mais je me rappelle qu'un jour, elle a ouvert la porte de la chambre et m'a tendu une assiette en carton avec un demi-sandwich au beurre de cacahuète. C'était le dîner. Un demi-sandwich était loin d'être suffisant comme dîner après une longue journée passée sans manger.
You eat your sandwich and when you're finished you go right to bed.
J'ai d'abord cru que c'était un goûter, mais c'est devenu une habitude de ne plus nous laisser sortir pour manger. On ne descendait plus pour le dîner ou le petit déjeuner. On mangeait dans la chambre tout le temps. On n'avait pas le droit d'aller aux toilettes. Alors, on a commencé à faire dans les coins de la chambre. On soulevait la moquette, on faisait ce qu'on avait à faire, et on remettait la moquette pour qu'Alice ne voie rien. On a fait ça pendant des mois et des mois. C'est dingue. On vivait comme des animaux. Personne ne devrait avoir à vivre comme ça. Je n'avais pas le droit de parler à Tyler pendant ce temps. Je présume qu'on lui donnait la même nourriture que moi. Mais on ne s'est pas vu pendant 10 ou 11 mois à cette époque. C'est comme une seule et longue journée quand tout est toujours pareil. On n'avait pas d'autre contact avec Alice. Et Marie ne faisait rien pour arranger la situation.
Is everything okay? They're fine. They're just having dinner.
Marie aurait dû appeler la police, les services sociaux, un ami de la famille ou ses parents. Elle aurait pu s'en aller. Mais elle ne s'est pas battue pour ses enfants, pour nous défendre, nous protéger comme elle l'aurait dû. Je lui ai demandé plusieurs fois comment elle avait pu laisser faire ça. Et elle m'a répondu qu'elle était accro à la morphine. Elle n'était pas elle-même. Mais ça n'aurait jamais dû arriver. Elle n'a pas été à la hauteur. Elle aurait dû partir. Marie faisait un procès au père de Darrell, Danny et Marissa, pour avoir la garde. Elle voulait la garde alternée. Alors il venait passer quelques heures à la maison le week-end. Tout a été idyllique pendant 2 semaines ou 1 mois. On s'entendait tous bien. On dormait dans un lit normal. On prenait le petit déjeuner et le dîner à table. Alice essayait de dissimuler ce qu'elle faisait pour que mes frères et ma sœur ne disent rien à leur père biologique. Un jour, on nous a réveillés. On nous a habillés sommairement, avec un short et un t-shirt. Et on nous a dit d'accompagner Marissa. On n'était encore jamais sortis de la maison. Je ne me souviens pas d'être sorti avant ce premier jour où je suis allé à l'école. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait tout un monde dehors, à l'extérieur de la chambre. Alice est restée debout sur le trottoir devant la maison, à regarder Marissa nous emmener à l'école primaire. Je ne comprenais même pas ce qu'était l'école. On n'était pas du tout armés pour sortir en public. On ne savait pas lire, je ne savais pas faire mes lacets, on n'était même pas propre. C'était comme envoyer des animaux sauvages à l'école. Mais je ne me souviens pas d'avoir entendu les instituteurs poser des questions sur ma taille, ma maigreur, ni simplement manifester de l'inquiétude. Et je ne me souviens pas d'avoir jamais parlé de ça à l'école. On est allé en classe pendant 2 ou 3 semaines. Puis on nous a brusquement retirés de l'école, du jour au lendemain. J'aurais aimé qu'un des enseignants dise quelque chose ou le signale. Mais je ne sais pas si aucun d'entre eux savait ce qui se passait. Rien ne s'est jamais passé. Rien n'a jamais été fait pour nous sortir de là. Mais une fois qu'Alice et Marie nous ont retirés de l'école, la situation s'est aggravée à la maison. Une ou 2 semaines après avoir été ramené à la maison, on a vu des enfants passer devant chez nous en rentrant de l'école. Ils nous ont appelés. Ils nous ont dit de descendre pour jouer avec eux. C'est tout ce qu'ils ont fait. C'était des gamins.
were hollering.
On leur répondait en tapant au carreau. Mais on a fini par s'attirer des ennuis. Alice est arrivée et elle était furieuse.
What the hell is going on in here? Get away from that window.
Qu'est-ce que vous faites? N'approchez pas de la fenêtre. Personne ne doit savoir que vous êtes là.
If you can't behave yourselves, you can stay in here.
C'est là qu'elle a commencé à nous enfermer dans le placard. C'était un KGB d'1 mètre sur 1 mètre 50, avec de la moquette. Il n'y avait pas d'étagère, ni de barre pour accrocher des vêtements. Seulement un placard vide, sans lumière, sans rien. Elle nous a enfermés dans le placard. Je me souviens d'avoir entendu un bruit de cadenas et soudain, il faisait tout noir. La première fois qu'Alice nous a mis dans le placard, j'ai pensé que ça n'arriverait qu'une fois, que c'était une punition à court terme. Mais en fait, ça a commencé à se reproduire. Au début, elle se contentait de fermer la porte avec un cadenas. Puis plus tard, elles ont acheté une grosse commode en bois, dont elle se servait pour bloquer la porte. Si Alice oubliait de mettre le cadenas, ce qui arrivait, il y avait la commode. Pendant environ 3 ans, on a passé de longues heures dans le placard, dans le noir total, à l'exception de la lumière qui filtrait sous la porte. Alice nous donnait à manger occasionnellement, mais ne nous laissait pas sortir pour le petit déjeuner ni le dîner. Rien n'était fait à heure régulière. Alice nous donnait à manger quand bon lui semblait. Elle montait avec un demi-sandwich et ne nous laissait pas sortir. On devait le manger devant elle, à genoux. Ou bien elle ouvrait la porte du placard et nous faisait manger là où on allait aux toilettes et on dormait. On devait se partager ce demi-sandwich au beurre de cacahuète, alors on le mangeait le plus lentement possible, en le grignotant par petites bouchées. Puis, on le régurgitait et on le mangeait de nouveau. C'est très dur d'y repenser. C'était une tactique de survie. J'ai gravement souffert de boulimie quand j'étais adolescent, parce que mon corps ne pouvait pas conserver la nourriture. Et j'ai de gros problèmes de vue pour avoir été enfermé dans le noir si longtemps. On a eu l'idée de s'évader par le placard, de creuser dans le mur pour sortir de la maison. On s'est mis à creuser avec nos ongles. Tyler et moi étions enfermés dans le placard parfois pendant 2 semaines, parfois pendant 1 mois. Comme on était dans le noir total, on ne savait pas l'heure qu'il était jusqu'à ce qu'Alice ouvre la porte. Je ne savais pas quand était le jour ou la nuit. Je n'avais aucune notion du temps. Maintenant que je sais lire l'heure, que je sais ce que représente une année, à quel point le temps passe vite, je me rends compte qu'un ou 2 mois dans le noir, c'est comme 10 ans. C'est difficile de savoir qui on est, quel âge on a. Et le temps qui passe devient très flou. Alors maintenant, je regarde toujours l'heure. Je gère mon temps et j'essaye de profiter le plus possible du temps qui me reste. C'est très long. Ça me paraît interminable. Je peux faire une pause? Je suis désolé. Il fallait que je m'interrompe. Je commençais à voir flou. À cause du stress post-traumatique, je vous voyais flou. Je ne savais plus où j'étais. J'avais l'impression d'être encore enfermé dans cette boîte. C'est le placard dans lequel on était enfermé. Tyler et moi partagions cet espace. Quand je le vois éclairé, on dirait un endroit différent. Je m'en souviens comme d'une grosse boîte noire. C'est là qu'on a arraché la peinture et des morceaux de mur par endroits, avec nos ongles. Souvent, on dormait dans notre urine parce qu'on n'avait pas le droit d'aller aux toilettes pendant des jours. Alors, on devait faire dans le placard. C'est dingue de se dire qu'on a survécu dans un espace si petit, lui et moi, pendant tout ce temps, qu'on a tenu. C'est insensé de se dire qu'Alice a pu nous laisser dans cet environnement pendant si longtemps. Toute la violence physique était dirigée contre Tyler. Ça a commencé par des coups de pied entre les jambes, puis elle s'est mise à le pousser dans l'escalier. Alice détestait Tyler. Parfois, quand on était dans le placard, Marie et Alice trouvaient qu'on faisait trop de bruit, simplement en parlant. Si on avait le malheur de déranger Alice quand elle était avec Marie, on se prenait une raclée. On entendait le bruit métallique de ses bottes dans l'escalier. Ça nous paraissait incroyablement lourd, menaçant, dangereux et agressif. C'est devenu le bruit qu'on redoutait le plus, ce bruit sourd. Dès qu'on entendait son pied sur la première marche, on se disait « Tais-toi, ne bouge pas. Si elle ne nous entend pas, elle oubliera peut-être qu'on est là. »
You know, I can hear you all the way downstairs.
Elle nous forçait à sortir du placard, à nous mettre à genoux devant elle et à la regarder, parce qu'elle adorait cette sensation de pouvoir.
Get out here.
What are
now?
Elle le frappait ou le fouettait avec sa ceinture. À ce stade, on ne pensait plus à manger, mais simplement à survivre. J'étais prêt à mourir de faim pour lui éviter quelques raclées. On en a parlé ensemble. Il a l'impression d'avoir été traité comme un esclave. Ça n'était pas juste. Je serais prêt à tout recommencer rien que pour empêcher ça. Un jour, Alice nous a fait sortir de la chambre et conduit en bas. Elle nous a fait asseoir par terre dans le salon. Et elle a vidé devant nous un sac poubelle rempli de peluches et de jouets qu'on n'avait jamais vus. On ne jouait pas vraiment, on restait simplement assis là. C'était super bizarre. On ne nous avait jamais rien donné avant. Deux inconnus sont entrés dans la maison. J'ai pensé que c'était des amis d'Alice et Marie. On ne savait pas que c'était les services sociaux. Je pense que les agents avaient été envoyés chez nous parce que Marissa, Danny ou Darrell avaient dit quelque chose à leur père. Danny et Darrell venaient le week-end et ils voulaient jouer avec nous. Alice nous laissait sortir du placard, mais on devait rester dans la chambre où l'odeur d'excréments était très forte. J'imagine qu'au fil des années, Danny, Darrell et Marissa ont parlé à leurs parents ou à leurs professeurs des conditions dans lesquelles on vivait. Mais les agents des services sociaux ne sont jamais montés à l'étage. Ils n'ont pas inspecté la chambre, ni le placard. Et ils ne nous ont posé aucune question. Il suffisait qu'ils montent l'escalier et entrent dans la chambre pour que tout s'arrête. Mais ils n'ont rien fait. Alice était très calme. Marie l'a laissé parler presque tout le temps. Pour Alice, c'était comme jouer un rôle. Elle se donnait en spectacle. Quand ils sont partis, Alice a remis toutes les peluches et les jouets dans le sac poubelle. On a été ramené à l'étage et enfermé dans le placard. Après cette première visite des services sociaux, qui n'a rien donné, elle s'est sentie intouchable. Elle pouvait agir en toute impunité. À partir de 2003, Darrell, Danny, Marissa, Tyler, moi et Caleb avons habité tous ensemble. Mary voulait la garde exclusive de mes frères et de ma sœur, alors ils ont emménagé avec nous. On répétait à Danny et Darrell qu'on ne nous donnait pas à manger. Et Marissa a fini par le savoir. C'était la seule qui pouvait nous sauver. Elle nous avait déjà laissé sortir plusieurs fois. Et de temps en temps, elle nous emmenait aux toilettes parce qu'Alice ne voulait pas le faire. Elle n'était pas inhumaine. Elle s'occupait vraiment de nous. Un jour, Marissa nous a libérés du placard et nous a dit qu'Alice et Marie étaient sorties. On lui a demandé si on pouvait descendre et avoir à manger.
All right, but we have to make this quick because they could get home any minute. Got it?
On est descendu dans la cuisine et on a découvert que les placards étaient pleins. Le frigo était rempli. Tout était plein à craquer. À ce moment-là, on a compris qu'Alice était vraiment diabolique. Elle avait manifestement assez d'argent pour nourrir toute la famille. Mais elle choisissait de ne pas le faire. Je n'en croyais pas mes yeux de voir autant de nourriture concentrée au même endroit. On a pris tout ce qu'on pouvait. Des gâteaux apéritifs, des sodas, des barres de céréales. On a rapporté tout ce qu'on pouvait dans le placard. Puis Marissa nous a ramenés dans la chambre. Elle nous a enfermés à nouveau et on s'est empiffrés. Je n'avais jamais autant mangé de ma vie. C'était délicieux. Quand Alice est rentrée, elle était furieuse, folle de rage. Elle ne nous a pas nourris pendant 2 ou 3 jours. Puis elle nous a fait sortir du placard et mettre à genoux devant elle. Elle avait un bol dans chaque main. Elle les a posés devant nous et nous a dit que c'était notre punition pour avoir volé de la nourriture.
What's the matter? I thought you were hungry.
Elle nous a forcés à manger des excréments. On a pensé que c'était ceux du chien dans le jardin. Parfois, je me dis que je n'étais pas obligé de le faire. Je n'avais pas un revolver sur la tempe. Mais je me sentais tellement prisonnier de cette situation. J'ai l'impression d'être un sous-homme. Ça me torture encore aujourd'hui. J'y pense tout le temps. Ça vous marque à vie en tant qu'être humain. Il faut tomber très bas pour forcer quelqu'un à faire une chose pareille. Pour lui enlever toute humanité. En 2003, j'avais 8 ans. Alice nous nourrissait une fois par semaine. Je n'avais pas vu ma mère depuis des mois. C'est là que j'ai compris qu'on était livrés à nous-mêmes. Je voulais sortir. J'ai décidé d'essayer de convaincre Tyler et les autres. On devait trouver un moyen de sortir de là, parce qu'à ce stade, Danny et Darrell avaient parlé à leur père, Marissa avait aussi parlé à son père, et il ne s'était rien passé. Alors on a commencé à élaborer un plan pour s'évader. Un soir, Marissa est montée dans la chambre pendant qu'Alice et Marie dormaient. Et elle nous a fait sortir du placard. Darrell, Danny et Caleb étaient avec elle. Elle nous a dit que c'était le moment et elle était très agitée.
What are you doing?
Shh. Stay quiet. We're gonna get you out of here.
What? Right now?
Elle nous a dit que c'était pour cette nuit.
It can't wait. It has to be now.
C'est là qu'elle nous a expliqué qu'on devait sauter par la fenêtre.
To go out the window.
You gotta go with them, Darrell. Make sure they get out okay.
Then we have to. On devait choisir qui allait s'enfuir. On ne pouvait pas le faire tous les 6. Alice risquait de passer dans les chambres et il ne fallait pas éveiller ses soupçons.
We have to get you guys out first.
Yeah, you guys have to go.
Darrell, Tyler et moi avons décidé de partir en premier. Caleb, Danny et Marissa nous rejoindraient plus tard.
We'll be fine. Now hurry.
Marissa a essayé de gagner du temps. Elle a repoussé la commode devant le placard, au cas où Alice entrerait dans la chambre. Darrell voulait me prendre sur son dos et qu'on descende le long de la gouttière. Je suis monté sur son dos. Il a enjambé le bord du toit et s'est laissé glisser le long de la gouttière. Mais quand on a atterri, la gouttière s'est décrochée dans un fracas énorme. On s'attendait à ce que la lumière de la chambre d'Alice et Marie s'allume. On est resté paralysé pendant quelques minutes. Mais elle ne s'est pas allumée. Tyler a sauté du toit et on a commencé à remonter la rue. Une fois l'adrénaline redescendue, j'ai compris qu'on venait de s'évader. J'ai regardé autour de moi. J'ai vu le ciel au-dessus de ma tête et les arbres. J'étais submergé par l'émotion. C'était dingue. Mais c'était tellement beau. Mes frères et moi en train de courir vers la liberté. C'est encore plus beau quand j'y repense maintenant. Imaginez trois garçons marchant dans la rue, presque nus, à 3 heures du matin, mal nourris, en sous-vêtements, pas lavés, sans chaussures ni chaussettes. On aurait dit des sans-abri. On n'avait aucun plan, à part s'évader et marcher. Avec un peu de chance, quelqu'un nous aiderait. On a tourné au coin de la rue et on a bu au tuyau d'arrosage d'une voisine. Une lumière était allumée dans la maison. Une dame nous regardait, debout à sa fenêtre. Elle tenait le rideau dans une main et le téléphone dans l'autre. À peine 30 secondes plus tard, une voiture de police est arrivée en trombe. Les policiers nous ont demandé ce qu'on faisait en pleine nuit dans les rues d'Akron. Au début, on ne voulait rien leur dire parce qu'on avait peur qu'ils nous ramènent chez Alice et se rangent de son côté. Ils nous ont fait asseoir sur la banquette arrière et nous ont proposé de nous acheter à manger si on acceptait de leur parler. Ils nous ont emmenés acheter des sandwichs et des boissons. Un sandwich de 30 cm de long avec de la viande, des légumes et du fromage. On n'avait jamais mangé ça de notre vie. Je ne savais pas ce qu'était un sandwich parce que je n'en avais jamais mangé. Dès qu'on a commencé à manger, les policiers ont vu qu'on dévorait comme des bêtes sauvages. Et ils ont compris qu'il y avait un problème. Alors on leur a raconté qu'on vivait enfermé dans un placard, qu'on nous affamait et qu'on nous battait.
What do you mean you live in the closet?
We're not allowed to come out unless Alice says we can.
Ils ne disaient rien. Ils restaient assis là, totalement impassibles, à nous écouter. J'avais très, très peur qu'ils ne nous croient pas. Ils ont passé un appel radio et on a attendu en silence. Puis ils ont raccroché et ont mis le contact. Et ils nous ont dit, on va vous ramener chez vous.
No, please.
On s'est mis à crier, totalement paniqué. Pourquoi ils voulaient nous ramener? On s'est ratatiné derrière leur siège le plus possible pour qu'ils soient obligés de nous traîner hors de la voiture si jamais ils ouvraient la portière. On ne retournerait jamais dans le placard.
All right, we're taking you back.
C'était terrifiant. J'ai vraiment cru qu'ils allaient se ranger du côté d'Alice, comme tous les autres. Mais ils nous ont dit, du calme, vous n'allez pas sortir de la voiture. Ils sont restés avec nous dans la voiture, et d'autres policiers sont arrivés. Ils ont défoncé la porte, se sont précipités à l'intérieur, et la minute d'après, Alice et Marie sont sortis, avec les menottes au poignet. C'est la dernière fois que j'ai vu ma mère. J'y repense de temps en temps. Je me repasse la scène dans la tête. Ça me fait plaisir. Comment dire ? On a su à ce moment-là qu'on serait enfin en paix et qu'elles paieraient pour ce qu'elles avaient fait. C'est moi. Ce sont deux photos que j'ai toujours dans mon téléphone. Je les regarde pour ne pas oublier. Ne pas oublier d'où je viens. Ces photos montrent le degré d'abus, de négligence et de malnutrition qu'on a subi aux mains d'Alice et Marie. J'avais 8 ans et je pesais à peine 13 kilos. On ne voit pas ma poitrine et mon sternum est un peu enfoncé. J'ai des cernes énormes sous les yeux, comme si je n'avais pas dormi depuis des semaines. Je me souviens d'être resté tout petit comme ça pendant une période qui m'a paru des années. Je me sentais très vieux dans un tout petit corps. Je suis fier de moi, vous savez. Il est fier de moi et je suis fier de lui. C'est ma photo préférée. J'en suis très fier. Elle a été prise environ un an plus tard. Cette photo symbolise toute la joie de l'enfance. Je faisais des tours dans l'allée avec mon vélo toute la journée. C'était des années heureuses. Il ne m'arrivait que des bonnes choses et je pouvais simplement profiter de la vie, être un gamin normal, faire ce que je voulais sans avoir à m'inquiéter parce qu'on veillait sur moi. Une femme qui n'était pas ma mère voulait me consacrer du temps et de l'attention et faire l'effort de m'offrir une enfance.
Mary Rolls sobbed in court. Alice Jenkins showed little emotion as they heard the long list of charges they were about to admit to: kidnapping, felonious assault, endangering children, and then.
Ms. Jenkins, what is your plea? Guilty.
Alice et Marie ont plaidé coupables et ont été condamnées à 30 ans. Je pense qu'elles ont toutes les deux plaidé coupables pour passer moins de temps en prison.
Judge Patricia Cosgrove held Mary Rolls just as responsible, even if she may not have initiated the abuse.
At any point in time, if you acted as a mother in this case, you could have prevented the harm to your children. You chose not to.
La moitié de leur peine est déjà écoulée. Ça fait 15 ans. En 2033, elles vont sortir toutes les deux. Maintenant qu'on se rapproche de cette échéance, leur peine me paraît trop légère. Nos conditions de vie enfant étaient pires que leurs conditions de vie en prison. Ce sont les photos d'identité de la prison. Alice a le regard fatigué. Marie a beaucoup changé. Elle a l'air très vieille. Ça me rend furieux de les voir sourire comme ça. Elles ont l'air presque contentes et satisfaites d'elles-mêmes. En 2017, j'ai contacté Alice et je lui ai demandé pourquoi elle avait fait tout ça et si elle avait des remords. Elle m'a répondu qu'elle n'avait rien fait de mal et qu'elle avait seulement pris la place de Marie parce qu'elle ne remplissait pas son rôle de mère. Marie m'écrit toujours de temps en temps. Elle dit toujours qu'elle est désolée, qu'elle n'aurait pas dû laisser faire ça. Je ne crois pas que ses excuses soient sincères. Elle dit seulement ce qu'elle pense que les autres veulent entendre. Mais c'était important pour moi de lui pardonner. Non pas d'oublier, mais de la laisser partir. De la laisser vivre sa vie, et moi la mienne. J'aimerais pardonner à Alice, mais je n'ai pas encore réussi. C'est dur de repenser à ce qui nous est arrivé, à mes frères, ma sœur et moi. Mais on a survécu et on s'en est sorti. Darrell a des enfants maintenant. Danny va plutôt bien. Il est marié et a deux enfants. Je lui parle régulièrement. Tyler aussi. Mais je n'ai pas parlé à Caleb depuis quelques années. J'adorais Marissa. Après des années de séparation, j'ai pu reprendre contact avec elle, rencontrer ses magnifiques enfants et voir la mère de famille qu'elle était devenue. C'était une mère formidable. C'était son rêve. Tout ce qu'elle voulait, c'était avoir des enfants et être une bonne mère. Un jour, en rentrant chez elle, après avoir déposé les enfants à l'école, alors qu'elle rentrait chez elle en voiture, elle a été percutée de plein fouet par un chauffard. Elle est morte sur le coup. Je ne sais pas. Je pense à Marissa tous les jours. Quitter l'Ohio pour m'installer en Arizona a été une étape capitale. C'était vraiment un nouveau départ pour moi. J'ai commencé le parcours quand je suis arrivé en Arizona, comme une thérapie pour mon esprit. Le parcours m'a aidé à guérir et à croire en moi. C'est un travail sur la vitesse, les compétences physiques et la compréhension de ce qu'on peut faire avec son corps. Il n'y a personne pour nous dire quoi faire. On est seul face à ses pensées. Mon corps est sacré et il est très important pour moi. Je veux qu'il dure longtemps. J'ai perdu 8 ans de ma vie à ne pas pouvoir l'utiliser. Je ne comprenais pas ça quand j'étais petit, mais aujourd'hui, mon corps est beaucoup plus important que quand j'avais 18, 19 ou 20 ans. J'apprécie beaucoup plus ce que j'ai à sa juste valeur et mon corps en fait partie. La vie est plutôt belle. J'habite en Arizona. Je m'entends toujours très bien avec mes parents adoptifs. La famille est passée de 4 à 14 enfants. Je suis dans une relation depuis 4 ans maintenant et j'adore la vie. Je voyage dès que je peux et j'en profite le plus possible. Je n'aimerais avoir qu'un seul enfant en raison de mon histoire. C'est mon intention, n'avoir qu'un seul enfant, le gâter et tout lui donner. Tout ce que je n'ai jamais eu et encore plus. Je voudrais comprendre pourquoi c'est arrivé. On aurait pu être une famille solide et soudée. On avait tout pour l'être. Je sais que j'aurais pu mourir dans ce placard. Elles auraient laissé faire. Ma vision de la vie aujourd'hui, c'est qu'il se passe des choses horribles. Et je voudrais qu'on agisse davantage. Personne ne sait ce qui se passe dans la vie privée des gens. Personne. On ne sait pas. Il y a des monstres dans certaines familles, et on n'en sait rien.
La nuit tombait sur Saïgon avec une lourdeur étouffante, comme si l'air lui-même savait qu'un drame était sur le point d'éclater. Dans les ruelles, encore baignées d'humidité après une pluie d'été, les néons tremblotaient et projetaient leur lueur incertaine sur les façades défraîchies. C'est dans ce décor à la fois vibrant et inquiétant que l'histoire commença. Une histoire où l'amour, la jalousie, la peur et la mort allaient se nouer jusqu'à former un nœud si serré qu'il sembla, pendant des années, impossible à défaire. Tout débuta par une simple lettre posée sur une table, une lettre d'adieu, comme tant d'autres, mais tachée d'un détail qui changerait tout. Une trace de rouge à lèvres, minuscule, presque imperceptible et pourtant criante de vérité. Le corps d'un jeune homme fut découvert dans un petit appartement du quartier 5, un endroit banal, étouffé par la chaleur, envahi par l'odeur persistante de cuisine et de poussière. Au premier regard, tout laissait croire à un suicide, un corps affaissé, une bouteille d'alcool vide, une lettre d'adieu soigneusement pliée. Mais les policiers appelés sur les lieux ressentirent immédiatement ce que tout enquêteur aguerri apprend à reconnaître. Ce léger décalage, cette dissonance imperceptible qui dit que quelque chose ne colle pas. Le jeune homme s'appelait Tran Hu Nam, 27 ans, employé d'une petite société de commerce, sans histoire apparente, ni dettes importantes, ni passif criminel. Pourtant, son corps racontait autre chose. Un bleu à la tempe, une légère ecchymose au poignet, des indices subtils mais suffocants, comme un murmure dans le silence. Et puis, il y avait cette lettre, brève, presque trop brève, où Nam écrivait « Je n'ai plus de raison de rester, pardonnez-moi. » Des mots impersonnels, glacés, sans chaleur, sans la moindre trace de l'intimité que l'on attend d'un ultime message. Et surtout, il y avait cette marque écarlate sur le papier, une trace de lèvres peinte d'un rouge profond que personne ne sut expliquer sur le moment. Les enquêteurs savaient que les suicides à Saïgon, à cette époque, n'étaient pas rares. La fin des années 1990 avait laissé place à un chaos social discret. L'ouverture économique avait multiplié les inégalités, creusé des fossés invisibles dans lesquels tombaient des âmes fragiles. Mais en regardant Nam, étendue comme une poupée brisée, ils sentirent que cette mort avait une autre texture, une autre odeur. L'autopsie confirma leurs doutes. Nam n'était pas mort par sa propre main, mais étranglé, avec une force calculée, froide, méthodique. Son cou présentait une fine ligne de pression, à peine visible, mais suffisante pour dire que derrière la scène mise en place, il y avait une main, un souffle, un tueur. Le cercle de proches fut immédiatement interrogé. Les collègues parlèrent d'un homme discret, presque effacé, qui s'asseyait toujours au même coin de bureau, qui rangeait ses papiers avec une rigueur maniaque. Ses amis, peu nombreux, évoquèrent une romance trouble avec une femme mystérieuse, rencontrée quelques mois plus tôt dans un café enfumé. Personne ne connaissait son nom réel, seulement son surnom, Lan. Une femme aux cheveux noirs, brillants, aux yeux trop sombres, toujours habillée de rouge. C'était elle que l'on soupçonna, bien sûr, mais aucune preuve ne liait encore son existence à la scène macabre. Sauf peut-être cette trace écarlate, imprimée comme une signature involontaire sur le dernier message de Nam. Les policiers saisirent la lettre, l'enfermèrent dans un sac scellé, conscient qu'elle pourrait être la clé d'un secret plus vaste. Ce détail dérisoire, une empreinte de lèvres, devint la fracture par laquelle la vérité allait s'infiltrer. L'enquête se heurta rapidement au silence des témoins. Personne ne connaissait vraiment Lan, personne ne savait où elle vivait, ni d'où elle venait. Les cafés où elle apparaissait semblaient l'avaler aussitôt qu'elle disparaissait. Les policiers décrivirent son image comme un fantôme urbain. Une silhouette flamboyante dans la nuit, un parfum sucré qui traînait après elle, et puis plus rien. Mais une vieille serveuse finit par se souvenir. Cette femme avait toujours payé en liquide, sauf une fois, où elle utilisa une carte de paiement portant un nom improbable, presque inventé. Ce petit détail permit de remonter jusqu'à une adresse, un appartement minuscule au bord du canal Tauhu, infesté de moustiques et d'humidité. À l'intérieur, pas de lin. Seulement des habits féminins abandonnés, des flacons de parfum bon marché et un miroir fissuré couvert de traces de rouge à lèvres, comme si elle avait répété encore et encore un rituel secret. C'était une mise en scène, une chambre qui semblait parler d'elle sans jamais la livrer. L'empreinte prélevée sur la lettre fut comparée à celle retrouvée sur le miroir, correspondance parfaite. La chasse à Lan devenait officielle, et pourtant, plus les policiers creusaient, plus l'affaire s'assombrissait. Il apparut que Lan n'était pas son vrai nom. Derrière ce masque de séduction se cachait une femme au passé éclaté, liée à plusieurs disparitions non élucidées dans les années précédentes. Chaque fois, un homme, chaque fois une mort maquillée en accident ou en suicide, et toujours, toujours, une trace rouge. La traque de Lan prit une tournure presque irréelle, comme si les enquêteurs poursuivaient une ombre. Plus ils avançaient, plus les contours de cette femme se brouillaient. Ses voisins d'immeuble affirmaient l'avoir vue à peine quelques semaines plus tôt, mais chacun en donnait une description différente. Pour l'un, elle était douce et réservée, pour l'autre, extravagante et bruyante, pour un troisième, mystérieuse et dangereuse. Comme si Lan savait modeler son image à la convenance de celui qu'elle voulait séduire. Pourtant, au-delà des récits contradictoires, un détail revenait sans cesse. La couleur rouge, rouge sur ses vêtements, rouge sur ses lèvres, rouge sur les griffures qu'elle laissait parfois sur les murs d'un escalier. C'était une signature, ou plutôt un code, que personne n'avait déchiffré. Les enquêteurs découvrirent qu'elle avait travaillé de manière intermittente dans plusieurs bars de nuit de Saïgon. Dans ces lieux saturés de fumée, de musique grinçante et d'hommes enivrés, Lan apparaissait comme une énigme. Les serveuses qui l'avaient côtoyée parlaient d'une femme qui ne buvait jamais une goutte d'alcool, mais qui acceptait volontiers d'en verser aux autres. Les observant se perdre dans leurs excès comme un entomologiste observe un insecte prisonnier. Elle souriait peu, mais son regard hypnotisait. Beaucoup d'hommes s'étaient attachés à elle, trop vite, trop fort, comme happés par une force obscure. Plusieurs de ces hommes avaient fini mal, ruine, disparition, accident. Les policiers commencèrent à soupçonner un mode opératoire, une série cachée de crimes maquillés dont Nam n'était que la dernière victime révélée. Le plus troublant fut la découverte, dans un ancien bar fermé depuis 1996, d'un carnet oublié dans une arrière-salle. Le carnet, couvert de poussière et de moisissures, appartenait à une serveuse disparue mystérieusement à l'époque. Entre ses pages tachées figurait une note brève. « L'un est dangereuse. Elle se joue des hommes. Elle les marque. Je crois qu'elle les suit jusque dans leurs rêves. » Cette phrase résonna comme un avertissement posthume, un cri étouffé venu du passé. Les enquêteurs comprirent que Lan n'était pas une simple femme fatale, mais peut-être le visage visible d'une obsession plus profonde, un fantôme social né des contradictions d'une ville en mutation. Pendant ce temps, l'analyse scientifique avança. Le rouge à lèvres sur la lettre d'adieu de Nam fut comparé à une série de produits disponibles sur le marché en 1999. Les chimistes de la police isolèrent une composition particulière, une marque peu répandue, importée illégalement de Hong Kong. À Saïgon, seulement 3 commerces vendaient cette peste nuance précise. Un rouge sans mat au nom évocateur Crimson Promise. En retraçant les ventes, on identifia une cliente régulière, une femme utilisant à chaque fois une identité différente, mais laissant derrière elle une signature manuscrite instable, nerveuse, tremblée. La piste se resserrait, mais chaque fois qu'il pensait la coincer, Lan s'évanouissait comme de la fumée. On signala sa présence dans un hôtel du district 3, mais lorsqu'ils arrivèrent, il ne restait qu'un lit défait, une lampe allumée et sur la table de chevet un mouchoir taché de rouge. On crut la voir sur une caméra de surveillance d'une gare routière, mais l'image était trop floue pour certitude et la silhouette semblait presque se dissoudre dans le grain de la pellicule. À mesure que l'obsession des policiers grandissait, l'affaire dépassa le simple cadre d'un meurtre. Elle devint une énigme collective, un miroir tendu à la ville entière. Car ce n'était plus seulement le destin de Nam qui était en jeu. Dans les archives, on ressortit des dossiers jamais résolus. En 1994, un homme retrouvé mort dans une chambre d'hôtel, lettre d'adieu suspecte, trace de rouge à lèvres sur son col. En 1991, un fonctionnaire provincial disparu, sa voiture retrouvée près d'un canal, avec un foulard rouge accroché au rétroviseur. En 1998, un jeune étudiant retrouvé pendu, mais dont les mains portaient des marques de lutte. Chaque fois, un détail rouge. Chaque fois, une mise en scène ambiguë. Les enquêteurs se sentaient prisonniers d'un labyrinthe. Était-ce l'œuvre d'une tueuse en série froide et calculatrice, ou bien un faisceau de coïncidences qu'il forçait à entrer dans un schéma? La réponse semblait se cacher dans cette trace de rouge à lèvres, minuscule mais obsédante, qui, comme une goutte de sang fossilisé, racontait plus que tous les témoignages. Le capitaine chargé de l'affaire nota dans son rapport « Nous ne traquons pas seulement une femme. » Nous traquons une idée, une couleur, un mythe qui prend chair et s'évapore aussitôt. Et puis, un soir d'octobre 1999, survint un rebondissement inattendu. Dans une benne à ordures derrière un marché, un enfant trouva un sac plastique noir. À l'intérieur, des papiers, des cartes d'identité falsifiées et au milieu, soigneusement pliées, une ex-autre lettre. Sur le papier jauni, une écriture tremblante. « Je ne suis pas celle que vous croyez. » Je ne laisse pas de traces. Je suis vos propres ombres. En bas de la feuille, Encore une fois, une empreinte de rouge à lèvres, identique à celle de la lettre de Nam. Cette fois, ce n'était plus un indice. C'était un défi lancé aux enquêteurs, une provocation directe, comme si l'âne les observait, les guidait, les manipulait. Le climat de peur s'installa. Dans les journaux, on parlait d'une « femme aux lèvres rouges », moitié criminelle, moitié fantôme. Les rumeurs enflèrent. Certains disaient l'avoir vue dans les marchés nocturnes, d'autres dans les hôtels de luxe, d'autres encore dans les temples, priant avec ferveur comme une pénitente, mais la vérité restait insaisissable, flottant quelque part entre les ombres de la ville. Ce n'était plus une enquête ordinaire. C'était une chasse contre le temps, contre l'oubli, contre la peur elle-même. Et plus l'affaire s'étendait, plus une question hantait les policiers comme un écho lancinant. L'âne existait-elle vraiment ? Ou n'était-elle que la figure incarnée d'un mal plus diffus, enraciné dans les fissures invisibles d'une société en mutation ? La découverte de la lettre dans la benne à ordures bouleversa le cours de l'enquête. Ce n'était plus une simple chasse à la criminelle. C'était une lutte psychologique, un duel silencieux entre une femme invisible et toute une équipe de policiers dévorés par l'obsession. Le capitaine Lay, d'ordinaire rationnel et froid, commença à perdre le sommeil. Chaque nuit, il rouvrait le dossier, relisait les témoignages, examinait encore et encore les photos de la scène du crime, comme si dans ces clichés granuleux pouvait se cacher une vérité qui lui avait échappé. La trace de rouge à lèvres était devenue pour lui plus qu'une preuve, une énigme presque métaphysique. Il se surprenait à rêver de lèvres écarlates qui laissaient leur marque sur ses propres rapports, comme une malédiction qui contaminait tout. La presse, flairant l'odeur du scandale, se mit à relayer l'affaire avec des titres sensationnalistes. La femme aux lèvres de sang, l'ombre rouge de Saïgon, la tueuse fantôme. La population, partagée entre peur et fascination, commença à inventer ses propres légendes. Dans les marchés, les vieilles femmes chuchotaient que l'âne n'était pas humaine. Mais un esprit vengeur revenu réclamait les âmes des hommes infidèles. Dans les bars, on murmurait qu'elle appartenait à un réseau occulte, qu'elle séduisait pour soutirer de l'argent avant de tuer. La vérité, déjà fragile, se dissolvait dans un océan de fantasmes. Mais la police ne pouvait se contenter de mythes. Elle devait traquer des faits, des détails tangibles. L'équipe décida alors d'élargir ses recherches à l'international. Les empreintes de rouge à lèvres furent envoyées à Hong Kong, à Singapour, à Bangkok, là où des crimes similaires avaient pu être recensés. À la surprise générale, un dossier fit surface. En 1995, à Kowloon, un homme d'affaires retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel, lettre d'adieu ambiguë, tache de rouge à lèvres sur son carnet personnel. L'affaire n'avait jamais été élucidée. En 1997, à Bangkok, un diplomate avait disparu, et dans son bureau, la police avait retrouvé un verre de whisky marqué de lèvres rouges. Ces coïncidences prirent soudain une ampleur terrifiante. Et si l'âne n'était pas seulement l'ombre de Saïgon, mais une figure errante qui traversait les frontières, laissant derrière elle une piste invisible de mort silencieuse. Pour le capitaine Lay, ce constat fut un choc. L'affaire dépassait les limites de sa juridiction, mais il sentit qu'abandonner ici équivaudrait à céder à l'ombre. Il réunit son équipe et leur dit, d'une voix ferme mais voilée par la fatigue, « Nous ne cherchons pas seulement une criminelle, nous cherchons une logique cachée, une mécanique de la peur. Si nous échouons, elle continuera ailleurs, et d'autres mourront comme Nam. » Ces hommes comprirent alors qu'ils étaient engagés dans quelque chose de plus grand que leur mission habituelle. C'est à ce moment qu'apparut un nouveau témoin. Un ancien chauffeur de taxi, aujourd'hui vieil homme malade, se présenta de lui-même au commissariat. Il affirma avoir conduit, en 1999, une femme correspondant à la description de l'âne. Elle portait une robe rouge, parlait peu, mais ses yeux fixaient sans relâche son rétroviseur. Le chauffeur dit qu'il avait eu la sensation d'être transpercé, vidé, comme si elle lui dérobait une partie de son âme rien qu'en le regardant. Elle avait demandé à être déposée devant un immeuble délabré du district 8. L'adresse correspondait à un ancien bâtiment colonial transformé en pension bon marché, connu pour abriter des travailleurs pauvres et des voyageurs de passage. Quand la police se rendit sur place, l'immeuble était en grande partie abandonné, mais dans une chambre verrouillée, on trouva un miroir fissuré, encore une fois couvert de marques de rouge à lèvres. Les scientifiques confirmèrent. Certaines empreintes correspondaient à celles de la lettre de Nam. L'effet fut glaçant. Chaque miroir semblait être pour elle une scène, un théâtre, où elle répétait son geste, son rituel, comme si chaque victime n'était qu'un chapitre d'une pièce plus vaste, une pièce écrite en rouge. Mais au-delà des preuves matérielles, c'est la dimension psychologique qui commença à ronger les enquêteurs. Ils comprirent que l'âne ne tuait pas seulement des hommes. Elle les effaçait. Chaque détail de leur vie semblait disparaître dans un brouillard, chaque témoin devenait confus, chaque souvenir s'émoussait. Comme si sa présence même brouillait les mémoires, transformait les faits en rêves incertains. Certains policiers commencèrent à douter de leur propre perception. Le capitaine Lay nota dans son journal personnel « Je sens que cette affaire veut m'avaler. Plus je cherche, plus je me perds. » Et pourtant, une nouvelle piste surgit. Parmi les papiers retrouvés dans le sac d'ordures, un reçu froissé portait l'adresse d'une pharmacie du district 1. Là, le pharmacien se souvenait d'une femme mystérieuse, venue plusieurs fois acheter des somnifères et des calmants puissants. Il décrivit une cliente nerveuse, parlant vite, comme si elle craignait d'être suivie. Ce détail brisa l'image de la tueuse invincible. Derrière le masque de séduction, peut-être existait une femme en fuite, rongée par ses propres peurs, prisonnière de son propre mythe. Alors, la question changea. L'âne n'était-elle qu'une manipulatrice froide, ou bien une âme fracturée, prise au piège de son propre rôle, incapable de sortir d'un cercle qu'elle avait elle-même tracé? Cette ambivalence rendait l'affaire encore plus terrifiante, car elle laissait entrevoir que le monstre n'était peut-être qu'un reflet de notre propre fragilité. Et dans cette fragilité, dans cette faille, les enquêteurs comprirent qu'il fallait frapper vite, avant que l'âne ne disparaisse encore une fois dans l'épaisseur de la ville. Ils décidèrent de tendre un piège, en exploitant sa signature, le rouge. Une opération fut mise en place, discrète, risquée, presque désespérée, car désormais ce n'était plus seulement une enquête. C'était un affrontement à découvert, une partie d'échec avec la mort comme enjeu. Le piège fut conçu avec une minutie presque obsessionnelle. Les enquêteurs savaient que l'âne ne se laissait pas attirer par la peur, mais par le désir, par l'illusion d'un lien émotionnel qu'elle pouvait manipuler. Ils décidèrent donc d'utiliser un appât qui, pour la première fois, inverserait les rôles. Un jeune officier de la brigade, choisi pour son physique avenant et sa capacité à jouer la vulnérabilité, fut envoyé dans l'un des bars où l'âne avait été aperçu. Son rôle y était clair. Se montrer seul, mélancolique, écrire ostensiblement dans un carnet comme un homme perdu, une proie idéale. Le capitaine Lay savait que c'était dangereux, peut-être suicidaire, mais il n'y avait plus d'autre issue. Chaque fois que l'âne s'évanouissait, une nouvelle victime apparaissait dans son sillage. La nuit du guet fut tendue comme une corde prête à rompre. Le bar, noyé dans une lumière rougeâtre, semblait lui-même conspirer avec la mise en scène. La musique, sourde et entêtante, recouvrait les conversations. Dans un coin, l'officier jouait son rôle à la perfection, le visage baigné d'une tristesse calculée. Les autres policiers, dissimulés dans la foule, surveillaient chaque mouvement. Et soudain, elle apparut. Comme surgie du néant, l'âne entra dans le bar. Sa robe écarlate, son regard perçant, son pas glissant comme une danse silencieuse. Elle n'avait rien perdu de son aura. Le temps sembla se suspendre. Même les habitués cessèrent d'un cesse de parler, happés par l'éclat de sa présence. Elle s'assit près de l'appât, sans un mot. Son parfum, sucré et entêtant, envahit l'air. Elle effleura du bout des doigts le verre posé devant lui, laissant une trace rouge, presque cérémonielle. L'officier sentit un frisson parcourir sa nuque, mais il devait tenir. « Vous semblez seul, » dit-elle enfin, d'une voix douce et grave à la fois. Une phrase banale, mais qui, dans sa bouche, sonnait comme une incantation. L'échange se prolongea, hypnotique, jusqu'à ce qu'elle propose de quitter le bar. Le piège fonctionnait. Dehors, la nuit de Saïgon vibrait au rythme des scooters et des vendeurs ambulants. L'âne conduisit l'officier dans une ruelle étroite, à peine éclairée par une ampoule vacillante. C'était là que la police devait intervenir, mais à l'instant décisif, tout bascula. Une silhouette surgit de l'ombre, rapide, tranchante. un complice inattendu. L'officier fut saisi par derrière, un couteau effleurant sa gorge. L'âne souriait, elle avait flairé le piège et l'avait retourné contre eux. Les policiers embusqués réagirent aussitôt, mais l'âne et son complice disparurent dans le chaos de la ruelle, ne laissant derrière eux qu'un éclat de verre brisé et une nouvelle trace écarlate sur le mur. L'humiliation fut terrible. Le capitaine Lay sentit le poids de l'échec s'abattre sur lui comme une chape de plomb. Ces hommes avaient été manipulés une fois de plus. Pire encore, l'âne n'était plus seulement une criminelle insaisissable, elle était désormais une menace consciente, proactive, capable de prévoir les mouvements de la police. L'affaire prit une dimension de guerre psychologique. La ville elle-même semblait se transformer en échiquier, chaque quartier devenant une case où l'âne pouvait apparaître ou disparaître à sa guise. Dans les jours qui suivirent, de nouveaux indices surgirent, comme si elle les avait semés volontairement. Dans un hôtel abandonné, une valise contenant plusieurs robes rouges. Dans une cabine téléphonique, un message griffonné. « Vous ne m'arrêterez pas, je suis déjà dans vos souvenirs. » Les experts en graphologie confirmèrent que l'écriture correspondait à celle des lettres retrouvées auparavant. Mais ce qui glaça l'équipe, ce fut un dernier détail. Au dos du papier, une photographie ancienne, jaunie, représentant une jeune femme différente, souriante, sans maquillage. Au bas de la photo, une inscription. « Letty Mai Sanks ». Qui était-elle vraiment? L'âne n'était peut-être qu'un masque, un nom parmi d'autres. Derrière cette identité, il y avait peut-être une vie brisée, un passé enfoui. Le capitaine Lay comprit que pour la démasquer, il faudrait exhumer son histoire, retracer les cicatrices d'une enfance ou d'une jeunesse marquée par la violence. C'était la seule voie, comprendre l'origine du monstre pour espérer l'arrêter. À partir de ce moment, l'enquête se transforma. On cessa de chercher seulement la criminelle insaisissable pour remonter aux racines de son existence. Les archives de la ville furent fouillées, les dossiers d'orphelinats, de foyers, de réfugiés, examinés un à un, et peu à peu, un puzzle commença à s'assembler. Derrière la femme fatale qu'on appelait l'âne, il y avait une enfant perdue de l'après-guerre. Une fille née dans la poussière et la faim, marquée par la solitude et la violence. La vérité émergeait lentement, mais elle promettait d'être encore plus dérangeante que le mythe. Car si le monstre n'était qu'une victime transformée par les blessures du passé, alors l'affaire n'était plus seulement criminelle. Elle devenait un miroir de toute une époque, de ses cicatrices jamais refermées. Et ce miroir, personne n'était sûr de vouloir s'y regarder. Les archives racontèrent une histoire que personne n'avait voulu entendre, une histoire enfouie dans la poussière et le silence des années passées. Le nom Letty Mai surgit pour la première fois dans un registre d'orphelinat daté de 1975, l'année où Saigon s'effondra et renaquit dans le tumulte. Elle était alors une enfant de 6 ans, recueillie après que ses parents eurent disparu dans des circonstances floues. Un père jamais revenu d'un camp de rééducation, une mère engloutie dans la misère des rues. La petite Mai grandit dans un environnement où la faim, la peur et l'abandon étaient le quotidien. Dans les rapports jaunis, on notait déjà son tempérament étrange, silencieuse, méfiante, les yeux trop grands pour son visage, fixant longuement les adultes comme si elle devinait leurs secrets. À l'adolescence, elle disparut de l'orphelinat. Aucun document ne retraçait son départ, on disait qu'elle avait été recueillie par une femme travaillant dans un cabaret, qu'elle a initié à l'art de séduire les hommes riches pour survivre. Le destin de Mai se dédoubla alors. D'un côté, la jeune fille meurtrie qui cherchait à se reconstruire, de l'autre, le masque flamboyant de Yilan, cette femme aux lèvres rouges qui apprit vite que le désir pouvait être une arme plus tranchante que n'importe quel couteau. Le capitaine Lay, en découvrant ces fragments, sentit une fêlure s'ouvrir en lui. Il voyait désormais l'âne non seulement comme une tueuse, mais comme un produit d'un monde fracturé, une enfant abandonnée que personne n'avait protégée, une survivante transformée en prédatrice. Cette prise de conscience rendait l'affaire plus complexe. Arrêter. L'âne signifiait non seulement mettre fin à une série de crimes, mais aussi affronter le spectre de toute une génération perdue. Les enquêteurs approfondirent leurs recherches. Ils retrouvèrent d'anciens clients du cabaret où Mai avait travaillé. Tous décrivaient une jeune femme en robe rouge, fascinante mais insaisissable. Certains disaient qu'elle ne riait jamais, d'autres qu'elle éclatait d'un rire trop fort, comme forcé. Dans chaque témoignage, une constante. Elle laissait derrière elle des marques rouges, sur un verre, sur une chemise, sur un miroir. Ce n'était pas seulement un signe distinctif, c'était une manière de dire « je suis passé », une revendication d'existence face à un monde qui l'avait effacé enfant. Pourtant, derrière cette logique, il y avait aussi une cruauté froide. Les hommes qu'elle séduisait devenaient ses victimes, comme si elle vengeait, à travers eux, toutes les humiliations subies. La lettre d'adieu de Nam, tachée de rouge, prit alors un autre sens. Elle n'était pas qu'un faux message, mais une signature, une manière de transformer une mort en rituel. Les policiers comprirent que pour arrêter l'âne, ils devraient anticiper son prochain geste. Or, les dossiers révélaient une étrange régularité. Tous les 2 ans, environ, un homme disparaissait, et toujours autour d'une date précise, la fin d'octobre, le moment anniversaire de l'arrivée de Mai à l'orphelinat. C'était comme si chaque meurtre célébrait ce traumatisme initial, une répétition macabre destinée à conjurer l'oubli. Nous étions précisément en octobre 1999. Le temps pressait. Une surveillance accrue fut mise en place dans les bars, les hôtels, les gares. Chaque silhouette en robe rouge devenait suspecte. Mais l'âne semblait deviner leurs mouvements. Elle apparaissait dans une rumeur, s'évaporait aussitôt, comme si elle dansait en avance sur leurs pas. Le capitaine Lay, rongé par l'insomnie, commença à douter. Peut-être que nous ne la trouverons jamais. Peut-être qu'elle choisira son dernier geste et que nous ne serons que des spectateurs. Et pourtant, un soir, un appel anonyme bouleversa la dynamique. Une voix féminine, rauque et tremblante, appela le commissariat. « Je sais qui est l'un. Je l'ai connue sous le nom de Mai. Elle n'est pas seulement une tueuse, elle cherche quelque chose, elle cherche quelqu'un. » Avant que la communication ne soit coupée, un seul indice fut donné, une adresse, un ancien temple bouddhiste désaffecté, en périphérie de la ville. L'équipe hésita. Était-ce un piège de plus, une provocation orchestrée par l'âne? Ou bien une faille véritable, un moment de vulnérabilité? Le capitaine Lay décida de tenter le tout pour le tout. Dans la nuit, ils se dirigèrent vers le temple abandonné. Les murs, envahis de lierre, portaient encore les traces de prières effacées. À l'intérieur, une odeur de cire et de poussière persistait. Et sur l'autel, au centre, un miroir ancien, fissuré, couvert de rouge à lèvres. Au pied de l'autel, une lettre pliée les attendait. « Bon, vous m'avez presque trouvé. Mais me trouver, c'est aussi vous trouver vous-même. Je suis votre peur, votre culpabilité. Quand vous me verrez enfin, ce sera déjà trop tard. » En bas de la lettre, encore une fois, l'empreinte rouge. Mais cette fois, différente. Moins nette, moins affirmée, comme si la main qu'il avait laissée tremblait. Pour la première fois, l'âne semblait vaciller. Le temple abandonné devint le théâtre du dernier acte. La police avait senti que cette fois, quelque chose basculait. La lettre tremblait, l'empreinte rouge moins assurée, tout indiquait que l'âne n'était plus l'ombre toute-puissante qu'elle avait incarnée, mais une femme acculée, prise dans son propre piège. Le capitaine Lay, en observant le miroir fissuré sur l'autel, comprit qu'elle se mettait elle-même en scène, qu'elle les invitait à assister à la chute qu'elle préparait depuis toujours. Mais était-ce une reddition? Ou bien un ultime tour? Une provocation destinée à les perdre à jamais? La nuit suivante, une surveillance discrète fut installée autour du temple. Les policiers attendaient, tapis dans l'ombre. Les heures s'écoulaient, pesantes, ponctuées seulement par le cri lointain d'un gecko. Puis, vers 3 heures du matin, une silhouette apparut dans la pénombre. Elle avançait lentement, vêtue d'une robe rouge qui semblait absorber la lumière. Ses pas résonnaient sur les dalles brisées. L'âne, ou Mai, venait d'entrer dans son propre sanctuaire. Elle ne montra aucune surprise en découvrant les policiers. Son regard glissa sur eux comme sur des spectres. Elle se posta devant le miroir fissuré, sortit un rouge à lèvres de sa poche et, d'un geste lent, traça une nouvelle empreinte, plus hésitante que jamais. Puis elle parla, d'une voix rauque qui résonna dans la nef vide. « Vous croyez me poursuivre, mais c'est moi qui vous ai mené ici. » Vous n'avez jamais compris. Chaque mort, chaque trace. Ce n'était pas pour vous défier. C'était pour qu'on se souvienne que j'ai existé. » Le capitaine Lay s'avança, son arme tremblante dans la main. « Oh, tu as tué des innocents, » lança-t-il. Elle eut un sourire amer. « Innocents ? Ces hommes m'ont vu comme un objet, une distraction. Ils m'ont effacé comme le monde m'a effacé enfant. Alors j'ai marqué leur vie, j'ai écrit ma douleur avec leur sang. » Son visage se durcit, mais ses yeux brillaient de larmes contenues. Les policiers encerclèrent l'hôtel. Lay comprit qu'ils étaient arrivés au point de non-retour. Un pas de plus, et elle tenterait de fuir ou de frapper. Mais au lieu de cela, elle leva les bras et ouvrit les mains comme une crucifiée. « Vous voulez la vérité ? La voici. Je n'ai jamais voulu survivre. Je voulais qu'on m'arrête, qu'on m'empêche, mais personne ne l'a fait. Pas en 1975, pas en 1985, pas en 1995. Vous êtes arrivés trop tard. » Puis, avant que quiconque puisse réagir, elle brisa le miroir d'un coup de poing. Le verre éclata en une pluie d'éclats tranchants, projetant des reflets sanglants sur les murs. Elle s'effondra, saignée par ses propres blessures. Les policiers se précipitèrent, mais il était déjà trop tard. Sa robe rouge s'assombrit encore, imbibée de son sang. Le silence qui suivit était presque sacré. Le capitaine Lay se pencha sur elle. Dans son dernier souffle, elle murmura « Dites-leur que j'existais vraiment. » Ses yeux se voilèrent et le mythe de l'âne s'acheva dans une flaque rouge entre sang et rouge à lèvres, indissociable. L'affaire prit fin cette nuit-là. Mais son écho continua de hanter Saïgon. Les journaux parlèrent de la « tueuse au rouge à lèvres », réduisant son histoire à un surnom sensationnaliste. Les archives consignèrent son dossier, parmi d'autres, un numéro de plus dans les annales du crime. Mais pour ceux qui l'avaient traqué, la vérité était plus lourde. Ils avaient rencontré un monstre façonné par la misère et l'abandon, une enfant transformée en prédatrice, une victime devenue bourreau. Le capitaine Lay, assis seul dans son bureau, quelques jours plus tard, relut la dernière lettre retrouvée au temple. « Je suis vos ombres », écrivait-elle, et il comprit que, d'une certaine manière, elle avait dit vrai. L'âne n'était pas seulement une tueuse. Elle était le miroir des cicatrices d'un pays, la preuve que l'oubli engendre des fantômes plus cruels que les vivants. La trace de rouge à lèvres, minuscule détail sur une lettre d'adieu, avait révélé bien plus qu'un meurtre. Elle avait ouvert une brèche sur un gouffre, celui de la mémoire, de la solitude et de la violence invisible qui façonne les destins. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un crime, c'était une parabole sur la fragilité humaine, sur la frontière ténue entre victime et bourreau, sur la nécessité de voir, avant qu'il ne soit trop tard, ceux que la société préfère ignorer. Et tandis que la ville reprenait son rythme, que les néons s'allumaient à nouveau dans les ruelles, certains juraient encore voir parfois, dans le reflet d'une vitrine ou d'un miroir fissuré, l'empreinte rouge d'un sourire disparu. Comme si l'âne, même morte, refusait de s'effacer. Comme si la vérité, une fois révélée, ne pouvait jamais se taire. Les archives racontèrent une histoire que personne n'avait voulu entendre, une histoire enfouie dans la poussière et le silence des années passées. Le nom Lay Ti Mai surgit pour la première fois dans un registre d'orphelinat daté de 1975, l'année où Saigon s'effondra et renaquit dans le tumulte. Elle était alors une enfant de 6 ans, recueillie, après que ses parents eurent disparu dans des circonstances floues. Un père jamais revenu d'un camp de rééducation, une mère engloutie dans la misère des rues. La petite Mai grandit dans un environnement où la faim, la peur et l'abandon étaient le quotidien. Dans les rapports jaunis, on notait déjà son tempérament étrange. Silencieuse, méfiante, les yeux trop grands pour son visage, fixant longuement les adultes comme si elle devinait leurs secrets. À l'adolescence, elle disparut de l'orphelinat. Aucun document ne retraçait son départ. On disait qu'elle avait été recueillie par une femme travaillant dans un cabaret, qui l'aurait initiée à l'art de séduire les hommes riches pour survivre. Le destin de Mai se dédoubla alors. D'un côté, la jeune fille meurtrie qui cherchait à se reconstruire, de l'autre, le masque flamboyant de l'âne, cette femme aux lèvres rouges qui apprit vite que le désir pouvait être une arme plus tranchante que n'importe quel couteau. Le capitaine Lay, en découvrant ces fragments, sentit une fêlure s'ouvrir en lui. Il voyait désormais l'âne non seulement comme une tueuse, mais comme un produit d'un monde fracturé, une enfant abandonnée que personne n'avait protégée, une survivante transformée en prédatrice. Cette prise de conscience rendait l'affaire plus complexe. Arrêter l'âne signifiait non seulement mettre fin à une série de crimes, mais aussi affronter le spectre de toute une génération perdue. Les enquêteurs approfondirent leurs recherches. Ils retrouvèrent d'anciens clients du cabaret où Mai avait travaillé. Tous décrivaient une jeune femme en robe rouge, fascinante mais insaisissable. Certains disaient qu'elle ne riait jamais. D'autres, qu'elle éclatait d'un rire trop fort, comme forcé. Dans chaque témoignage, une constante. Elle laissait derrière elle des marques rouges. Sur un verre, sur une chemise, sur un miroir, ce n'était pas seulement un signe distinctif, c'était une manière de dire « je suis passé ». Une revendication d'existence face à un monde qui l'avait effacé enfant. Pourtant, derrière cette logique, il y avait aussi une cruauté froide. Les hommes qu'elle séduisait devenaient ses victimes, comme si elle vengeait, à travers eux, toutes les humiliations subies. La lettre d'adieu de Nam, tachée de rouge, prit alors un autre sens. Elle n'était pas qu'un faux message, mais une signature, une manière de transformer une mort en rituel. Les policiers comprirent que pour arrêter l'âne, ils devraient anticiper son prochain geste. Or, les dossiers révélaient une étrange régularité. Tous les 2 ans environ, un homme disparaissait, et toujours autour d'une date précise. La fin d'octobre, le moment anniversaire de l'arrivée de Mai à l'orphelinat. C'était comme si chaque meurtre célébrait ce traumatisme initial, une répétition macabre destinée à conjurer l'oubli. Nous étions précisément en octobre 1999. Le temps pressait. Elle ne montra aucune surprise en découvrant les policiers. Son regard glissa sur eux comme sur des spectres. Elle se posta devant le miroir fissuré, sortit un rouge à lèvres de sa poche et, d'un geste lent, traça une nouvelle empreinte, plus hésitante que jamais. Puis elle parla, d'une voix rauque qui résonna dans la nef vide. « Vous croyez me poursuivre, mais c'est moi qui vous ai menés ici. Vous n'avez jamais compris. Chaque mort, chaque trace, ce n'était pas pour vous défier. C'était pour qu'on se souvienne que j'ai existé. » Le capitaine Lay s'avança, son arme tremblante dans la main. « Tu as tué des innocents, » lança-t-il. Elle eut un sourire amer. « Innocent ? Ces hommes m'ont vu comme un objet, une distraction. » Ils m'ont effacé comme le monde m'a effacé enfant. Alors, j'ai marqué leur vie, j'ai écrit ma douleur avec leur sang. Son visage se durcit, mais ses yeux brillaient de larmes contenues. Les policiers encerclèrent l'hôtel. Lay comprit qu'ils étaient arrivés au point de non-retour. Un pas de plus, et elle tenterait de fuir ou de frapper. Mais au lieu de cela, elle leva les bras et ouvrit les mains, comme une crucifiée. « Vous voulez la vérité ? La voici. » Je n'ai jamais voulu survivre. Je voulais qu'on m'arrête, qu'on m'empêche. Mais personne ne l'a fait. Pas en 1975, pas en 1985, pas en 1995. Vous êtes arrivés trop tard. Puis, avant que quiconque puisse réagir, elle brisa le miroir d'un coup de poing. Le verre éclata en une pluie d'éclats tranchants, projetant des reflets sanglants sur les murs. Elle s'effondra, saignée par ses propres blessures. Les policiers se précipitèrent, mais il était déjà trop tard. Sa robe rouge s'assombrit encore, imbibée de son sang. Le silence qui suivit était presque sacré. Le capitaine Lay se pencha sur elle. Dans son dernier souffle, elle murmura « Dites-leur que j'existais vraiment. » Ses yeux se voilèrent, et le mythe de l'âne s'acheva dans une flaque rouge entre sang et rouge à lèvres indissociable. L'affaire prit fin cette nuit-là, mais son écho continua de hanter Saïgon. Les journaux parlèrent de la tueuse rouge à lèvres, réduisant son histoire à un surnom sensationnaliste. Les archives consignèrent son dossier, parmi d'autres, un numéro de plus dans les annales du crime. Mais pour ceux qui l'avaient traqué, la vérité était plus lourde. Ils avaient rencontré un monstre façonné par la misère et l'abandon, une enfant transformée en prédatrice, une victime devenue bourreau. Le capitaine Lay, assis seul dans son bureau quelques jours plus tard, relut la dernière lettre retrouvée au temple. « Je suis vos ombres », écrivait-elle. et il comprit que, d'une certaine manière, elle avait dit vrai. L'âne n'était pas seulement une tueuse. Elle était le miroir des cicatrices d'un pays, la preuve que l'oubli engendre des fantômes plus cruels que les vivants. La trace de rouge à lèvres, minuscule détail sur une lettre d'adieu, avait révélé bien plus qu'un meurtre. Elle avait ouvert une brèche sur un gouffre, celui de la mémoire, de la solitude et de la violence invisible qui façonne les destins. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un crime. C'était une parabole sur la fragilité humaine, sur la frontière ténue entre victime et bourreau, sur la nécessité de voir, avant qu'il ne soit trop tard, ce que la société préfère ignorer. Et tandis que la ville reprenait son rythme, que les néons s'allumaient à nouveau dans les ruelles, certains juraient encore voir, parfois, dans le reflet d'une vitrine ou d'un miroir fissuré, l'empreinte rouge d'un sourire disparu. Comme si l'âne, même morte, refusait de s'effacer. Comme si la vérité, une fois révélée, ne pouvait jamais se taire.